Bernard et Étienne Leroy. Et on passe l'antenne 19h30 à Raphaël Antoven.
Et bonsoir à tous.
Hey, you know what?
Deuxième temps aujourd'hui d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent au bac philo. Une semaine de dissertation, d'esquisses et de plans de dissertation en partenariat avec Philosophie Magazine, dont je vous recommande chaudement le hors-série, le guide de survie pour le bac philo. Hier, nous nous demandions avec Carole Diamant dans quelle mesure un homme libre peut obéir. Aujourd'hui, en compagnie de Nathalie Monin, qui enseigne en terminale à Rennes, on va travailler sur l'art et nous poser ensemble la question redoutable de savoir si l'art nous révèle quelque chose du réel. Une émission en différé aujourd'hui, puisqu'enregistrée le mardi 27 mai dans le studio 133 de la Maison de Radio France et en duplex, puisque Nathalie Monin est à Rennes en ce moment dans les locaux de nos amis de France Bleu Armorique. Bonjour Nathalie Monin.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture. Alors on va plancher ensemble pendant une demi-heure sur ce sujet, donc c'est vous qui l'avez choisi. L'art nous révèle-t-il quelque chose du réel, partant du principe que les professeurs doivent subir les épreuves qu'ils infligent. C'est la règle qui préside à cette semaine. Donc l'art nous révèle-t-il quelque chose de réel, tel un jury d'agrègue le jour de la grande leçon? Je vous le dis, Nathalie Monin, nous vous écoutons.
Merci. Alors je voudrais d'abord, pour commencer, souligner le caractère étonnant de cette question qui met en rapport l'art et le réel. Parce que c'est vrai que si l'on regarde d'abord les œuvres d'art contemporaines, je pense à des tableaux de Pollock ou de Kandinsky, on ne voit pas a priori en quoi ces tableaux révèlent quelque chose du réel. Il n'y a rien à voir, a priori, entre ces tableaux, donc, et le réel.
Alors, pardonnez-moi, je me permettrai de ponctuer votre intervention de deux ou trois remarques de temps en temps, peut-être même didactiques. La première chose à faire, il faut le rappeler aussi pour le candidat au bac, c'est de s'étonner du sujet qu'il a sous les yeux, de le trouver étonnant, ou en tout cas de chercher ce qu'il peut avoir d'inattendu.
Voilà, de sentir ce que nous dit, à première vue, la question.
Dans quelle mesure il y a implicitement une opposition, finalement, entre les termes, les deux termes du sujet? Ça permet de trouver une problématique, ça.
Alors, ça permet de s'interroger, puisque la question indique un rapport qui peut-être auquel on n'aurait pas pensé entre l'art et le réel.
Mais alors, comment est-ce qu'on peut construire donc une problématique sur l'art et le réel, essayer de concilier les deux et nous poser cette question?
Alors, on va essayer de se demander dans quelle mesure, puisque le rapport qui nous est indiqué ici est celui de la révélation, donc on va peut-être essayer d'analyser ce que ça signifie révéler, et essayer de voir si ce rapport est justifié, s'il est légitime, et si effectivement la confrontation de l'art avec le réel par le biais de cette révélation a un sens, si c'est justifié.
S'il fallait faire tenir en une question la problématique d'un tel sujet, Nathalie Monin, vous le diriez comment? Vous le formuleriez comment? Mettons, vous êtes en terminale, vous planchez, vous avez 4 heures, il faut trouver la question à laquelle il s'agira de répondre.
Alors, je me laisserai d'abord un bon quart d'heure pour analyser les termes du sujet.
Ouais.
Et je ne formulerai surtout pas la problématique d'emblée. Je me demanderai ce que signifie révéler. Je me rappellerai la fonction d'abord du sens théologique de révéler, qui est quand même faire apparaître à des gens pour qui c'était inconnu, faire apparaître des vérités.
Mmh. Hein,
c'est l'action de Dieu qui fait apparaître à des hommes ce qui jusque-là leur était inconnu et qui ne pourrait peut-être pas être connu par le biais de la raison. Donc c'est intéressant parce que l'art serait justement ce qui court-circuiterait en quelque sorte la raison et qui viendrait faire apparaître quelque chose que la raison ne pourrait pas voir.
Vous voulez dire une vérité du réel à laquelle la raison n'a pas accès?
Il y aurait une... ça va être la question de savoir, parce que dans la question, il y a le quelque chose du réel.
Mmh.
C'est-à-dire que ici, la question a une forme de prudence, en quelque sorte, parce qu'on ne nous demande pas si l'art nous révèle le réel, ce qui tendrait à rapprocher, à écraser peut-être la notion de révélation sur celle d'imitation. Mais la question reste prudente en demandant quelque chose du réel, ce qui redouble l'interrogation, parce qu'évidemment, quoi du réel?
Alors, autre commentaire, hein, dans une dissertation et pas face à un sujet, l'un des risques pour l'étudiant, c'est un risque qui pourtant le rassurerait, c'est que le sujet ressemble à quelque chose qu'il a déjà traité et que par conséquent, ou quelque chose qu'il croit avoir déjà traité. Par exemple, si au cours de l'année il a eu « L'art nous révèle-t-il la réalité ?», ça n'est pas tout à fait la même chose que « L'art nous révèle-t-il quelque chose du réel ?» Et qu'en somme, dans l'analyse des termes du sujet, il faut marquer la spécificité du sujet, sa singularité. Un correcteur appréciera qu'un étudiant se heurte à la singularité des termes plus que qu'il lui donne le sentiment de rabattre finalement ce sujet sur un truc qu'il a déjà traité.
Voilà, il faudrait pas confondre avec l'art révèle le réel, avec l'art exprime-t-il le réel, et encore moins avec l'art imite-t-il le réel. Donc il faut faire attention au verbe qui indique ici un objet, enfin une manière de se rapporter, et puis ce quelque chose du réel qui pose problème. Alors si vous me demandiez la problématique, eh bien on pourrait la formuler, il y en aurait plusieurs.
Bien sûr, ça aussi, mais alors il y en a plusieurs, il ne faut pas espérer toutes les données, n'est-ce pas, mais il faut au moins en donner une et travailler à partir d'elle pour y répondre à la fin. Voilà. C'est quand même l'objet de la dissertation, il ne s'agit pas de faire un chef-d'œuvre, mais un travail rigoureux, donc allons-y.
Alors on pourrait se demander, s'interroger ici sur la fonction de l'art. Est-ce que dans la révélation il y a donc une idée de connaître quelque chose, et on pourrait se demander si ce n'est pas une fonction de l'art, une fonction possible de l'art, de nous apprendre quelque chose du réel, ce qui évidemment changerait la vision que l'on a de l'art et en ferait une fonction, enfin quelque chose qui nous apporte une connaissance sur le réel et non pas un divertissement. Donc on voit que l'enjeu de la question, est-ce que l'art est un simple divertissement qui peut-être même nous détournerait du réel, ou bien au contraire, nous apprenant quelque chose sur le réel, nous y replonge, et peut-être à travers ce quelque chose du réel, nous apprend quelque chose sur l'humain, ou sur ce qui est proprement humain dans la manière de se rapporter au réel.
Alors là, on est le proprement humain, ce serait la valeur ajoutée, peut-être une ultime partie de la dissertation. Mais en tout cas, l'angle, c'est la question de savoir si l'art nous détourne ou nous rapproche, alors je ne sais pas si le terme est le bon ici, de la réalité, ou nous révèle quelque chose de la réalité, ou si au contraire, il nous invite à détourner le regard. Nathalie Monin, dans un sujet comme celui-là, est-ce qu'un étudiant qui déciderait, par exemple, de consacrer sa première partie à l'hypothèse selon laquelle l'art, loin de nous révéler quoi que ce soit du réel, nous emmène au contraire ailleurs ? Est-ce qu'un étudiant qui commencerait comme ça serait hors sujet ?
Je ne pense pas, parce qu'il partirait de l'étonnement justement que nous avons eu sur ce sujet. Il partirait du sens commun qui a tendance à dire que l'art n'a rien à voir avec le réel et ne nous apprend rien sur le réel.
L'un des réflexes pour trouver une première partie, c'est peut-être le syndrome du micro-trottoir. Que penserait l'homme de la rue d'un tel sujet ?
Exactement. Ce serait ce que l'on sent sans avoir réfléchi, ce que l'on sent de manière immédiate. C'est se faire confiance à parce qu'on est plein de préjugés, et en quelque sorte c'est savoir ce qu'on préjuge du sujet. Après, on se mettra en quête d'un jugement justement qui sera plus analysé, plus réfléchi.
Donc en gros, la première partie d'une dissertation, c'est donner sa chance au préjugé le plus ordinaire finalement.
Pour l'analyser,
voilà, c'est ça.
On part du niveau le plus immédiat.
Alors allons-y.
Alors, on pourrait donc, dans une première manière, opposer l'art et le réel, en prenant des exemples, comme on l'a déjà dit, sur l'art contemporain. Un Pollock, par exemple, vous voyez ces tableaux de Pollock qui sont assez sombres, qui sont avec des éclats, des fils entremêlés, des petits points jaunes, rouges, bleus, sur un fond où vraiment ce qui domine, c'est un entrelac de fils de peinture. Donc ça fait une matière assez épaisse, et évidemment ça ne ressemble à absolument rien. Donc on peut se demander, quand on voit ça, enfin c'est plutôt l'étonnement qui arrive. On est face au tableau, et la première question, et qui saute à chaque fois qu'on voit un tableau...
Quel rapport avec la réalité ?
Voilà, aucun rapport. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit en général.
Aucun rapport.
C'est n'importe quoi.
Oui, c'est n'importe quoi, ou alors l'expression la plus ordinaire, c'est aucun rapport.
Aucun rapport, parce que cela signifie que nous attendons de l'art que finalement il nous montre le réel. Alors on pourrait prendre maintenant...
Pardonnez-moi, juste une chose, l'un des préjugés qui est à l'œuvre quand on dit aucun rapport, c'est d'imaginer que l'art révèle le réel quand il l'imite.
Voilà, Et on écrase à ce moment-là le verbe révéler sur le verbe imiter. On montrera après, on va se réserver la possibilité de montrer que ça n'est pas la même chose. Ce qui nous permettra de confronter les deux concepts, révéler et imiter, en faisant ressortir la spécificité de la révélation par rapport à l'imitation. Alors puisqu'on a pris deux exemples qui sont vraiment antinomiques entre l'art contemporain abstrait qui n'a rien à voir avec la réalité, et que nous dégageons de cela l'idée que finalement quand nous regardons une toile, nous attendons de trouver quelque chose qui ressemble à quelque chose, alors on pourrait se dire, quand on regarde un tableau de Corot ou de Courbet, une nature, on pourrait se dire, alors là, on reconnaît quelque chose.
Alors prenons l'origine du monde, par exemple, vous parlez de Courbet.
Alors, on reconnaît quelque chose.
Là, on reconnaît quelque chose.
On peut pas dire c'est n'importe quoi. Mmh. Sauf que, évidemment, vous prenez un tableau spécifique, je suppose que quand on regarde ce tableau, on peut être choqué. Et la question qui surgit, c'est pourquoi ? Pourquoi a-t-il représenté une partie de cette femme, la partie la plus intime, avec les jambes entrouvertes ? Alors ici, ce qui, vous voyez, l'art interroge. Mmh. On est bien en rapport avec le réel, dans la mesure où, cette fois-ci, on reconnaît parfaitement, mais ça ne suffit pas parce que l'interrogation est redoublée et le tableau choque, de sorte que cette fois-ci, c'est « mais à quoi ça sert de faire ça ?» Alors, quand le tableau ne ressemble à rien, on dit c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Mais quand le tableau ressemble, alors là, c'est
on dit il redouble finalement le réel. Voilà, on n'a pas besoin de Courbet pour savoir à quoi ça ressemble.
Et voilà. Et du coup, la question revient toujours. Mais que fait l'art ? À quoi sert l'art ? Et finalement, qu'est-ce qu'il nous dit ?
En même temps, il faut se méfier là pour le coup d'un véritable hors-sujet qui serait à quoi sert l'art ? Ça n'est pas la question non plus qui est posée dans ce sujet, même si elle est implicitement revenue.
Voilà, elle est implicitement, et l'aborder à un moment donné, à condition qu'on sache revenir au sujet, ne serait pas non plus inutile, parce que quand on s'interroge sur la fonction de l'art, donc on s'interroge aussi s'il a une fonction ou pas.
Alors, on est dans la première partie, là, hein, pour nos auditeurs, où il y a donc Pollock et la question de l'art contemporain, et puis vous avez cité ensuite Courbet par exemple, donc on a Pollock et Courbet. Mais il faut bien comprendre peut-être que cette première démarche qui consiste à donner sa chance à l'hypothèse que l'art en somme nous éloigne du réel, soit le redouble, soit au contraire nous parle de totalement autre chose, pour donner cette chance à cette hypothèse, on aurait pu se servir par exemple d'un procédé littéraire romanesque, on aurait pu citer n'importe quel roman qui nous emmène dans un monde imaginaire, soi-disant.
Voilà, c'est une difficulté de ce sujet parce que il dit bien l'art, il ne dit pas les œuvres d'art. Et dans l'art, évidemment, on a tout type d'art. On pourrait se demander, hein, en interrogeant la question, on pourrait se demander quel art et même quel courant d'art et quelles œuvres et quels peintres en particulier. Mm-hmm. Parce que là, on est effectivement dans un concept, ou en tout cas un domaine unique, mais qui recouvre une grande diversité, donc de la littérature à la danse, au théâtre, à l'opéra, à la musique. Effectivement, si on se demande, si on peut pas dire que la musique n'est pas de l'art, mais alors si on remplace l'art par musique, la musique nous révèle-t-elle quelque chose du réel ? Vous voyez, ça devient un petit peu compliqué parce que comment faire le rapport ? On est encore beaucoup plus loin ici entre la musique et le réel. Mais ce serait intéressant d'aborder ce biais parce que ça nous permettrait de réfléchir sur ce quelque chose du réel. Mmh. Parce que jusque-là, quand on a parlé de l'œuvre d'art, finalement le réel, on l'a un peu assimilé au monde extérieur, à la nature.
Mmh. Et voir à la réalité quotidienne, d'ailleurs, dont il s'agirait de s'abstraire un instant en allant dans une exposition ou en contemplant le tableau de Courbet.
Voilà. Et avec la musique, on pourrait se demander si ce quelque chose du réel ne signifie pas aussi quelque chose de l'homme. L'homme fait partie du réel. Est-ce que la musique ne nous ramène pas par les émotions qu'elle suscite, à quelque chose du proprement humain, justement, et qui est bien réel.
Alors, mais comment on enchaîne ? Première, deuxième partie, ici, selon vous, Nathalie Monin ?
Donc, on est parti de cette opposition, qui, on avait posé la question, est-ce que, finalement, quand je regarde un tableau, qu'il ressemble ou qu'il ne ressemble pas, il m'interroge. Il m'interroge sur pourquoi. Je pourrais, si je pars ensuite sur la musique, en m'interrogeant sur la multiplicité, d'accepter la polymorphie de cette notion d'art. Je pourrais me dire, et la musique alors ? Comment me rapporter au réel et qu'est-ce que ça révèle ? Je vais en passer donc par cette interrogation sur, maintenant je déplace la question sur le quelque chose du réel. L'homme est cette partie du réel. Dans ce réel, qui le voit, qui s'y rapporte ? Ben c'est l'homme. C'est la subjectivité qui pose le réel. Et peut-être même qui en a une certaine vision et pas une autre. Donc, il faudrait se demander ici si l'art...
Dans un deuxième temps.
Dans un deuxième temps, si l'art, ce quelque chose du réel qui serait révélé par l'art, ne concerne pas une réalité proprement humaine. Et je renverserai et je m'interrogerai dans une deuxième partie sur ce quelque chose, donc cette réalité qui est révélée par l'art.
Alors, cette réalité proprement humaine, dont vous dites qu'elle est proprement humaine, à laquelle vous accédez par le biais de la musique, on pourrait y accéder différemment,
oui.
Là encore, hein, la littérature ou la peinture, enfin les charnières à ce moment-là sont différentes, mais enfin, puisque vous passez par la musique, comment posez-vous donc ce que l'art nous révèle du réel, ou le quelque chose du réel que l'art nous révèle, relève de ce que vous appelez une réalité proprement humaine ?
L'art, je commencerai par, si on part sous le biais de la musique, par ce que provoque en nous la musique. Si finalement la musique n'avait absolument aucun rapport avec le réel, elle n'en aurait peut-être aucun avec nous-mêmes. Et nous ne nous sentirions pas émus par la musique. Donc je réfléchirai sur cet émoi. Que ce soit une musique triste, une musique joyeuse, une musique qui nous entraîne, en tout cas, elle bouge quelque chose.
Mm-hmm.
Peut-être elle fait résonance.
Étymologiquement, elle émeut.
Voilà, je remplace l'émoi, c'est ce qui bouge à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui se bouge à l'intérieur de nous. Alors qu'est-ce que c'est qui se bouge et comment la musique peut-elle avoir ce pouvoir de nous émouvoir ?
Quel exemple vous prendriez là, par exemple, spontanément ? Est-ce qu'il y a des exemples infâmes en philosophie ? Impossible, par exemple, en terminale. Est-ce que, mettons, un élève qui, parlant de musique, au lieu de citer Mozart, citerait du hip-hop, serait lu de la même façon par son correcteur ?
Je le lirai de la même façon,
oui.
Parce que ce qui compte, c'est d'être ému, quelle que soit la musique.
D'accord.
Donc il prendrait son exemple, je n'attends pas qu'un élève connaisse Mozart ou Schumann, et je prendrai l'exemple qu'il donne, parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il va dire de la musique, c'est ce qu'il va décrire de ce que suscite la musique.
Oui, mais en même temps, Nathalie Monin, si quelqu'un cite du hip-hop au lieu de citer Mozart, par exemple, on pourrait imaginer que, par exemple, le discours de ceux qui chantent, en l'occurrence, le toucherait aussi pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques, pour des raisons d'indignation, qui, en somme, non, sont différentes, sont en marge de ce qu'on pourrait appeler une émotion artistique désintéressée. Je vous propose d'entendre, on va faire une petite pause un instant, un essai de mise en musique de la philosophie par un professeur de terminale qui s'appelle Thierry Hemmes, notamment une chanson sur l'art, écoutez.
Le terme art est ambigu, l'art des beaux-arts ou de la rue, culinaire, décoratif, étymolo kif-kif, techné en grec, ars en latin, la technique comme point commun. Comment produire sans savoir-faire? Pour sculpter, faut tailler la pierre. La technique, yes, est nécessaire. L'artiste ne dira pas le contraire. Mais l'art, c'est plus que ça. Loin de l'artisanat, seulement mercantile, l'art ignore l'utile.
Il pose les bonnes questions, non, Nathalie Monin, dans ce texte-là, l'art ignore l'utile.
Oui.
Non. Revenons à nos moutons.
Oui, mais parce que on a eu une petite partie là, mais je dirais que cette musique-là qu'on vient d'entendre, c'est un discours conceptuel, hein, comme on pourrait commencer nos cours de philo, avec un fond musical. Je comparerais pas quand même ça à ce qu'on appelle une chanson. Il me semble vous parliez tout à l'heure d'une chanson qu'on pourrait aimer parce qu'elle véhicule un discours politique.
Mmh.
Alors j'ai l'impression que, vous voyez, je pense à des symphonies de Shostakovitch qui détournaient ce qu'il fallait, hein, la manière stalinienne, soviétique de faire de la musique. Et finalement, quand on entend, je pense à la 8e symphonie de Shostakovich et à ses violons saccadés, voilà, on pourrait entendre des bruits de bottes. Il n'y a pas de paroles. Et la musique peut évoquer. Alors évidemment, on connaît un peu l'histoire et c'est vrai qu'il y a une connaissance intellectuelle qui sous-tend la manière dont on va sentir la musique. Mais dans une, je pense maintenant à des chansons de Brel ou des chansons de Parolier, ici, là, il y a un amalgame entre ce qui est dit et la musique, la mélodie et toutes les harmonies d'ailleurs en dessous qui vont porter et qui vont jouer, qui vont même accentuer les paroles. Et voyez la différence avec le petit extrait que nous venons d'entendre. Parce que il y a de la poésie dans une chanson de Brel. Il y a de la poésie dans la musique de Shostakovich, et ce n'est pas la même chose. Il y a un art, finalement, d'utiliser les mots, qui est poétique, qui nous fait voir la chose, qui nous fait sentir la chose. Ce que ne fait pas le discours conceptuel. C'est pour ça que je dirais, j'ai parlé tout à l'heure de résonance. Et c'est pour ça que...
On est en pleine deuxième partie, hein. Pardonnez-moi de garder les pieds sur la dissertation, puisque c'est quand même ça qu'on doit résoudre ici. On est en pleine deuxième partie, c'est-à-dire, vous examinez là, en ce moment, la nature de l'émoi provoqué par la musique, et donc cette réalité proprement humaine, ce quelque chose de réel, donc, que l'art serait censé nous révéler.
Voilà. Ça fait résonance. Si la musique bouge quelque chose en nous, nous émeut, c'est que ça résonne. Et ça suscite des sentiments. Alors, des sentiments de joie, des sentiments de tristesse, des sentiments de mélancolie aussi. Et alors, pourquoi? Quel est le pouvoir de la musique ou de la chanson? Pour le savoir, je vais, vous voyez, confronter avec un discours qui serait uniquement conceptuel. Le discours conceptuel s'adresse à l'intelligence. Il est indirect, j'ai envie de dire. Nous en avons une compréhension médiate. Je reçois le discours et puis c'est ce que peuvent faire les auditeurs là. Et on doit évidemment, on a un petit temps de latence, hein, d'attente, avant que le sens percute. Dans la musique, comme dans l'art probablement, eh bien, il y a un rapport immédiat à l'art. C'est-à-dire que j'ai envie de dire ce quelque chose du réel. C'est la totalité de l'humain. Ce qui m'est peut-être révélé par l'art, c'est que je suis une personne totale, entière, intelligence et sensibilité mêlées en même temps.
En fait, vous remplacez l'intelligence par une forme d'instinct ici.
Non, parce que l'instinct me paraît non travaillé, alors que je pense que le sentir, je ramènerai ça à un sentir.
Une candeur peut-être à ce moment-là, celle qui s'obtient, non pas celle dont on part.
Voilà, non pas celle dont on, celle qui s'obtient, sans qu'on la travaille, hein, sans qu'on le veuille, qui s'obtient par la vie, par les connaissances qu'on fait, par la culture qu'on acquiert, par les histoires qu'on traverse, plus ou moins douloureuses, et tout ce qui nous forme, tout ce qui fait que, ben voilà, nous avons une certaine densité au bout d'un certain moment.
On va lire quelques lignes de Bergson, si vous êtes d'accord, Nathalie Lonin, puisqu'on est en plein dans le sujet, hein. Page 115 de l'édition Quadrige, aux presses universitaires de France, du livre du rire, l'ancienne édition, non pas la nouvelle, puisque le livre est reparu récemment. Quel est l'objet de l'art? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. On est exactement là, au cœur du sujet, justement.
Voilà. Alors, ce passage que vous venez de lire met en œuvre les grandes catégories de Bergson, la distinction qu'il fait entre l'intuition et l'intelligence, c'est-à-dire deux manières de se rapporter au monde. Une manière qui est celle de l'intelligence, par le biais du langage, qui est celle que nous apprenons et qui est le quotidien. Vivre, dit-il, c'est agir. Alors pour agir, eh bien, on doit découper le réel.
Et vivre consiste à agir, c'est n'accepter des objets que l'impression utile pour y répondre par des réactions appropriées. Du coup, je regarde et je crois voir, j'écoute et je crois entendre, je m'étudie et je crois lire dans le fond de mon cœur, mais ce que je vois et ce que j'entends, c'est simplement ce qui affleure à la surface, ce qui prend part à l'action.
Voilà. Et on pourrait dire ce que l'on a appris et ce qu'on doit absolument apprendre, hein, pour vivre ensemble.
Ensemble, voilà, c'est ça. Mais pas pour vivre véritablement, si j'ose dire.
Alors, cette manière de se rapporter, la deuxième manière, donc, c'est par l'intuition, qui est une manière de se mettre en symbiose, en osmose avec le réel. Alors, j'ai envie de dire, en quittant un petit peu l'esprit de Bergson, mais en réfléchissant à partir de lui, c'est peut-être de remonter à en deçà de ce que nous a appris le langage, c'est-à-dire en deçà de la première manière de se rapporter au monde. On a appris à vivre pour dans l'utilité.
Une émotion qui précède les mots, en somme, hein. Alors, il les déterminerait plus qu'elle
ne se déterminerait. Je ne sais pas si c'est l'émotion qui précède. Je ne sais pas s'il s'agit de remonter à une émotion. Il s'agit de produire, en tout cas, une émotion en se replaçant par rapport au monde dans un rapport désintéressé. Vous voyez, je vais dire l'émotion, on va la produire. Mais on va la produire en changeant sa manière d'être, en changeant son regard par rapport au monde, en ne voyant plus le monde justement par le biais de l'utilitaire, hein, du pragmatique, mais en c'est ce que l'art nous aide à voir et nous aide à retrouver en regardant le monde de manière tout à fait désintéressée.
Bah, prenons par exemple l'exemple d'une pintade. Au lieu de la manger, on en fait une nature morte.
Voilà. Bah, vous prenez la pintade, je prendrai les pommes de Cézanne.
Ah, bah, parfait. Allez-y. Chacun son plat de prédilection. Voilà. Allez-y, donc.
Alors, regardez les pommes de Cézanne. Ce n'est pas se dire, tiens, j'ai faim, je mangerai bien. Non, c'est justement ne pas penser au goût de la pomme. C'est ne pas penser, alors Kant dirait, lui, à l'existence ou pas, ou à l'inexistence de la pomme. C'est-à-dire ne pas penser au caractère agréable ou désagréable de ce que provoque une pomme sur le palais, mais c'est apprécier la pomme de manière désintéressée pour elle-même, pour le velouté que Cézanne sait peindre justement sur la peau des pommes.
Vous voulez dire, mais en même temps, on pourrait vous objecter que Cézanne a une façon de jouer avec la perspective qui réhabilite en même temps la subjectivité d'un regard et également le plaisir qu'on peut prendre à regarder quelque chose.
Alors, je dirais que vous posez la question ici du caractère unique ou pas du réel. Ce quelque chose du réel, parce que évidemment, on a dit tout à l'heure, Cézanne, avec ses aplats, je pense à la montagne Sainte-Victoire, oui, va nous montrer une certaine manière de faire dégager de la chaleur, hein, de restituer cela. Un autre va, par exemple, Van Gogh, alors lui, c'est un autre type de chaleur, hein, je pense au corbeau sur le champ de maïs, ou alors ces champs de blé, c'est pas du maïs, je suis dans le problème des OGM, c'est dans les champs de blé, et c'est une autre manière de faire surgir une atmosphère. Bon, alors du coup, est-ce qu'il y a une unicité du réel?
Il faut conclure, Nathalie Monin, sinon je vous enlève votre copie là.
Bon, alors je vais conclure. Ce quelque chose du réel, c'est la manière dont un regard peut se déployer de manière gratuite. C'est-à-dire, on arrive à ce réel qui nous est proposé à travers l'art, c'est une manière de voir le réel de manière non utilitaire.
Sartre parlait de la nature sans les hommes dans la nausée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression ?
Je pense que la nature sans les hommes, que serait-elle ? C'est-à-dire, s'il n'y a pas un regard pour donner du sens, ou au moins pour se demander le sens que cela a de regarder la nature, quelle serait la valeur d'existence de la nature.
Non.
Ce qui fait le réel, ce qui forme le réel, c'est le regard qui se pose dessus et qui peut choisir sa modalité, intéressée ou désintéressée. C'est ce que nous apprennent les peintres. Chacun à leur manière, ils nous apprennent que la réalité est multiforme. On peut la voir de multiples façons. Ce qui nous amène à cette dimension un peu métaphysique du sujet, et qui le réel finalement déborde le regard scientifique qu'on pourrait avoir sur elle. Il faut déjà s'interroger, il faut que le réel pose problème et ne soit pas évident pour que l'art puisse nous parler.
Merci Nathalie Monin, on va s'arrêter.
Merci
là. Merci et bravo surtout. Donc je rappelle que vous êtes agrégé de philo, vous enseignez la philosophie à Rennes, que vous avez participé à la rédaction du hors-série de Philosophie Magazine, le guide de survie du bac philo, formidable. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de passer le bac pour le lire, c'est passionnant comme tel. Vous êtes aussi l'auteur d'un Sartre aux belles lettres dans la collection Figures du savoir, et d'un Simone de Beauvoir aux éditions Plein Feu, intitulé On ne naît pas femme, deux points, on le devient. C'est vous qui m'avez appris qu'il n'y avait pas de virgule, mais deux points entre les deux morceaux de la phrase de Simone de Beauvoir. On vient de traiter ensemble le sujet que vous aviez choisi. L'art nous révèle-t-il quelque chose de réel? Demain, je recevrai Charles Pépin, qui est le rédacteur en chef du hors-série de Philosophie Magazine, qui traitera lui-même le sujet suivant, comment se préparer à mourir? Une vaste question à la réalisation François Connac, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richer. Un grand merci à nos amis de France Bleu Armorique, France Culture. Il est 20h. Tout de suite, on retrouve à Voix Nue sur France Culture.